Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes sont Dimitri Pavlenko, Emmanuel Faux et Bruno Crasse. Je les salue tous les trois. Bonjour.
Bonjour Bernard. Bonjour.
On commence avec vous, Dimitri. On commence avec vous et avec la persistance du coronavirus. La question suivante. Les Français vont-ils à nouveau devoir télétravailler massivement comme ils l'ont fait au cœur du printemps? En tout cas, ils le souhaitent. Selon un sondage Ipsos, la moitié des personnes interrogées aimeraient télétravailler à 100% pour toujours.
Ah, la moitié, vous vous rendez compte? Apparemment, quand on y a goûté le télétravail, c'est parce que vous pouvez pas télétravailler.
Moi, j'aime bien venir vous voir.
Ouais, en tout cas, c'est vrai que ce résultat nous interpelle. Alors, je précise qui a fait ce sondage, c'est l'Institut Ipsos pour le compte d'une entreprise qui s'appelle Welcome to the Jungle. C'est une start-up spécialisée dans la recherche d'emploi qui est présente en France, en Espagne et en République tchèque. Voilà pour les formalités. Donc, elle a commandé cette entreprise un sondage auprès de 1000 Français et 1000 Espagnols et 379 responsable RH, ressources humaines. Et ce qui en ressort, c'est que 48% des Français interrogés souhaitent avoir recours au télétravail complet, c'est-à-dire 5 jours sur 5. Et ce taux monte en Espagne à 56%. C'est absolument énorme. Télétravail intégral. Alors, des millions de Français, pendant le confinement, vous vous rappelez, ils ont basculé quand même assez brutalement. Et visiblement, ça a quand même plu à pas mal d'entre eux. En tout cas, à ceux qui ne connaissaient pas, parce qu'avant le confinement, vous n'aviez qu'une petite partie des salariés de bureau, hein, ceux qui peuvent télétravailler. Oui. Tout le monde ne le peut pas. À l'usine, évidemment, c'est impossible. Qui avaient goûté au télétravail, et ce, de manière à petit dosage. En moyenne, le télétravail avant le confinement, c'était une demi-journée par semaine. Pendant le confinement, le taux est passé à près des deux tiers, en fait, des Français qui vont au bureau en télétravail à des doses élevées, 3, 5 jours par semaine. Alors depuis, ce qu'il faut noter, c'est que ça a quand même beaucoup baissé. Selon le journal Les Échos ce matin, on n'a plus que 15% des salariés qui sont en télétravail aujourd'hui. C'est moitié moins qu'il y a 3 mois. Les gens sont massivement retournés sur site. Était-ce leur volonté? Ça, c'est toute la question.
Oui.
En fait, non, c'est surtout la volonté de leur entreprise. Le gouvernement aurait bien aimé, en fait, que les gens restent un peu plus en télétravail, que les entreprises les laissent davantage chez elles pour des raisons sanitaires. Mais ce qu'il y a, c'est que les entreprises font pas les arbitrages sur la question du télétravail comme le gouvernement. Le gouvernement s'occupe de santé, alors que les entreprises, elles vont choisir qui va rester bosser chez lui en fonction de ses compétences. Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qui explique que vous avez des gens qui sont de santé fragile, qui ont dû retourner sur leur lieu de travail?
Bon, alors, ce qu'on peut noter quand même, c'est que le gouvernement incite lourdement les entreprises, là, ces derniers jours notamment, à recourir au télétravail quand c'est possible.
Oui, et les Français, donc ce sondage, en est la preuve, seraient plutôt d'accord avec le gouvernement.
Évidemment.
Alors, tous les métiers ne s'y prêtent pas, on l'a dit, mais les entreprises sont circonspectes. Alors, à quelques exceptions près, on peut noter par exemple PSA, qui impose à ses cadres le télétravail 3 jours sur 5, ou Twitter, par exemple, qui propose le télétravail à vie à certains salariés. Mais globalement, les entreprises sont plutôt réticentes. Pourquoi ? Et on peut même parler carrément de rupture, de ligne de fracture entre les salariés et les employeurs. D'abord parce que les entreprises qui avaient accueilli le télétravail de manière assez favorable et avaient été plutôt agréablement surprises au moment du confinement, oui, disent aujourd'hui, il y a quand même des choses qu'on remarque. D'abord, on se questionne sur la productivité de certains salariés, de l'honnêteté, de la loyauté en fait de certains salariés qui sont en télétravail. Ben oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Vous voyez qu'ils vont au cinéma alors qu'ils disent qu'ils travaillent.
Oui, ou alors ils font leur sport, ils font leur ménage. Enfin bon, voilà, chacun fait sa petite vie. Et en fait, aujourd'hui, c'est que les entreprises ont déterminé qu'il y avait tout un tas de compétences, en fait, pour les télétravailleurs. Il faut certains talents. Il faut d'abord être bien équipé chez soi. Il faut être pas trop mauvais en informatique. Il faut bien connaître son entreprise. Parce que si vous débarquez dans une boîte, vous êtes tout de suite en télétravail, vous ne connaissez pas les gens. C'est quand même très important, cela. Et alors, il faut une vraie compétence. Alors ça, c'est le sujet absolument central. Et les gens qui ont expérimenté le télétravail vous le diront. Savoir communiquer, à l'oral comme à l'écrit, c'est décisif. Combien de gens se sont embrouillés avec des collègues avec qui ils s'entendent bien habituellement parce que dans un échange de mails, on a mal pris telle ou telle phrase et des situations s'installent. Donc, il y a vraiment cette étude d'une ligne de fracture qui s'explique aussi parce qu'en fait, les salariés choisissent le télétravail essentiellement par convenance à l'appui. J'ai cette autre étude qui est aussi stupéfiante. Selon Cadre Emploi, 84% des cadres parisiens rêvent de quitter l'Île-de-France et un tiers se dit même en recherche active. On veut le grand air, on veut la campagne, on veut la tranquillité, mon cher.
L'Île-de-France vide, peut-être, dans quelques années. Sait-on jamais. Tous en télétravail à Aurillac. Ça va être merveilleux. Dimitri Pavlenko, vous n'avez pas évoqué, mais il y a une autre ligne de rupture. On en reparlera très certainement. C'est avec les syndicats qui regardent le télétravail de manière très, très dubitative et dans l'expectative tentative et toutes les négociations sont encore à mener. Emmanuel Faux, grande manœuvre diplomatique en cours et aux conséquences très imprévisibles d'ailleurs pour la paix du monde. Depuis lundi, le secrétaire d'État américain, M. Mike Pompeo, effectue une tournée de 6 jours au Proche-Orient. Alors c'est une vaste offensive diplomatique américaine qui a pour but principal, si j'ai bien compris, de convaincre plusieurs pays arabes de normaliser enfin leurs relations avec Israël. Pour l'instant, il n'y a que 3 pays qui l'ont fait.
Voilà, c'est ça. Alors vous connaissez la fameuse formule du général de Gaulle sur l'Orient compliqué.
Oh oui.
Eh bien, 50 ans plus tard, les cartes sont encore rebattues avec un mouvement très net de rapprochement entre les pays arabes du Golfe et Israël. C'est une sorte de coalition, si vous voulez, de pays sunnites comme les Émirats, Bahreïn et le Soudan qui décident ou qui envisagent de nouer un partenariat avec l'État hébreu dans le but de s'organiser notamment face à l'influence de l'Iran chiite dans la région. Alors vous me direz, le dialogue israélo-arabe, il ne date pas d'hier. La paix avec l'Égypte, ça nous ramène au fameux accord de Camp David. Souvenez-vous, Sadat Begin, 78, le président américain de l'époque s'appelait Jimmy Carter. 15 ans plus tard, on a eu le traité entre Israël et un autre de ses pays voisins, la Jordanie. Mais ce qui vient de se passer le 13 août dernier, c'est-à-dire la reconnaissance officielle d'Israël par les Émirats Arabes Unis, c'est autre chose. D'abord, c'est un accord qui ouvre les canaux du renseignement militaire, des échanges technologiques, des capitaux financiers.
Ouais.
Et puis d'autre part, il est signé alors que les ponts entre les Israéliens et les Palestiniens sont complètement coupés. Et l'autorité palestinienne parle d'ailleurs d'un coup de poignard dans le dos. Elle en veut beaucoup à ses nouveaux alliés arabes d'Israël. Donc un mauvais coup pour les Palestiniens, une victoire diplomatique personnelle pour Benjamin Netanyahou, qui a mûri ses accords dans le secret depuis près de 10 ans avec l'aide des services israéliens du Mossad, et en passant d'ailleurs au-dessus de la tête de tout le monde. Et puis quant à Mike Pompeo, vous le citiez Bernard, il vient en quelque sorte parrainer ces nouvelles alliances pour en tirer le maximum de bénéfices. C'est le sens du voyage du secrétaire d'État qui a commencé par Israël et par le Soudan, qui va se poursuivre à Bahreïn et dans les Émirats.
Alors on peut tout de même remarquer, Emmanuel, que cette tournée a lieu la même semaine que la convention républicaine, qui doit théoriquement en tout cas relancer la campagne de M. Trump. C'est pas un pur hasard, ou si ?
C'est pas du tout un hasard, Bernard. D'ailleurs, ce voyage a été organisé à la hâte et annoncé seulement 2 heures avant le décollage de Mike Pompeo pour Israël. Et le secrétaire d'État a profité d'être à Jérusalem lundi pour enregistrer un message vidéo diffusé hier à la convention républicaine de Charlotte, histoire un peu de mettre en avant devant les militants l'action diplomatique de l'administration Trump. À Washington, d'ailleurs, certains dénoncent un mélange des genres entre l'utilisation électorale des deniers publics et ce voyage du secrétaire d'État. Mais le calendrier, il est clair. Hein. En janvier dernier, Donald Trump célèbre auprès de M. Netanyahou un plan de paix qui offre aux Israéliens la liberté d'annexer des territoires et d'étendre leurs colonies. En août, Mike Pompeo vient jouer les missi-dominici entre Israël et certains pays arabes. Et en novembre prochain, bien sans doute, l'électorat évangéliste très pro-israélien n'aura plus qu'à remercier le président Trump, grand ami de l'État hébreu. C'est, on peut dire, de la diplomatie électorale brute de brute.
On a bien compris les intentions des Américains par rapport à Israël, mais dans cette partie de billard, quid de l'Iran ?
Eh ben, c'est l'autre partie du mécano américain. Si vous voulez, on consolide le camp des amis d'Israël, dans le Golfe et jusqu'au Soudan, et on tente d'isoler un peu plus l'Iran. La semaine dernière, vous savez, à l'ONU, à New York, les États-Unis se sont heurtés aux Européens qui ont refusé un durcissement des sanctions contre Téhéran, ce qui a fait dire d'ailleurs à Mike Pompeo, tout en finesse, que l'Europe, en particulier Paris, Londres et Berlin, avaient choisi le camp des ayatollahs. Alors évidemment, ce que cherche l'Amérique de Trump dans cette vaste offensive proche-orientale, c'est d'abord de freiner l'expansion de l'Iran, qui joue un rôle régional important, rappelons-le, que ce soit en Syrie, auprès de Bachar al-Assad, ou au Liban, aux côtés du Hezbollah.
Comment rendre compréhensibles des situations totalement incompréhensibles ? C'est avec Emmanuel Faux, tous les matins, sur Radio Classique. Quant à Bruno Kras, hier soir, il est allé voir, avec d'autres confrères journalistes, le nouveau film de Christopher Nolan, Tenet, qui sort aujourd'hui même, si je ne m'abuse.
Absolument.
Non, aujourd'hui même. Alors, vous avez entendu parler de ce film, vous l'avez peut-être vu en bande-annonce si vous êtes allé au cinéma ces dernières semaines. Bon, d'abord, ça vous a plu ? Vous avez compris quelque chose ?
Je n'ai pas compris grand-chose, comme la plupart des spectateurs. Vous savez, Christopher Nolan, c'est un metteur en scène qui, depuis 20 ans, fait des superbes films. Hein. Vous vous souvenez, Memento, Insomnia.
Incompréhensible.
Mais pas tous, parce que c'est un bon metteur en scène. Mais il aime bien intellectualiser. Alors, cette histoire, elle est inspirée des James Bond, il adore ça. Donc, il y a un grand méchant qui est joué magnifiquement par Kenneth Branagh, comme
formidable
acteur shakespearien, s'il en est. Il y a un mec de la CIA, John David
David Washington, le fils de Denzel Washington, qui a un copain, Robert Pattinson, et ils sont censés déjouer le plan du méchant qui va détruire le monde. Jusqu'ici, on est dans le classique. Mais il y a un problème, il y a une inversion des temps. Et c'est là qu'on commence.
Pourquoi à faire Nolan.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un peu ce que veut Christopher Nolan. Donc vous avez des moments où ils vont repartir dans le temps passé pour refaire des scènes, mais eux, ils ont l'air d'agir normalement, mais tout a l'air à l'envers, les balles rentrent dans le canon, les bâtiments détruits se reconstruisent, et au bout d'un moment, on est totalement paumé. Maintenant, il reste que c'est un film virtuose, parce que c'est un virtuose, qui a des scènes magnifiques et fantastiques et spectaculaires, sans numérique, dont un 747 qui explose, il a pris un vieux 747, donc c'est bien fait. L'avantage, et ça risque de faire entrer les spectateurs, c'est qu'il y a plein de gens qui disent on va le voir deux ou trois fois pour essayer de comprendre. Donc, moi, je dis vive Nolan, parce qu'il va peut-être remonter un peu les entrées du cinéma
Alors,
français.
Alors, justement, c'est une Bérésina, le cinéma, cet été, globalement, à part un ou deux films français qui ont tiré leur épingle du jeu.
Alors moi, je m'inscris un peu en faux, voilà. Parce que c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est vrai qu'on a perdu 70% des entrées, mais comme il n'y avait pas de films américains, les films français ont parfois tiré leur épingle du jeu, ce qui, il faut dire pour être honnête, n'est pas toujours le cas chaque été. Parce que moi, j'ai fait plein de papiers, l'été meurtrier, les autres années. Donc quand on voit que Tout simplement Noir, sorti après le 22 juin, fait 700 000 entrées, Les Blagues de Toto, 600 000 entrées, Divorce Club, 580 000 entrées, T85 de Ozon, c'est pas forcément facile, un Ozon en plein été, 338 000 entrées. Moi, j'ai calculé qu'il y a plus de 3 millions de spectateurs avec une dizaine de films français. C'est pas si mal que ça. C'est vrai que les salles n'ont pas fonctionné comme avant, 70% de moins de recettes, etc., et de spectateurs. Mais je trouve que pour une situation après Covid et par rapport à d'autres secteurs, c'est pas si mal que ça.
Alors écoutez, moi Bruno Kras, vous allez couvrir pour Radio Classique le festival d'Angoulême, dont le film d'ouverture est le nouveau Kerbel.
Effacer l'historique, très attendu.
Effacer l'historique, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, ça a l'air absolument désopilant. On prend les paris que ça va marcher du feu de Dieu, ça.
Ah, moi j'espère qu'effacer l'historique va marcher. Je dis qu'Angoulême s'ouvre le vendredi 28, il y a plein de stars, c'est le premier festival après le déconfinement, et les stars seront masquées, bal masquées à Angoulême. Il y aura Gianni, il y aura Emmanuel Béart, tout le monde. Je ne sais pas si on se reconnaîtra. Ça va être ça le problème.
Merci beaucoup Bruno Kras, Emmanuel Faux, Dimitri Pavlenko, les spécialistes de ce matin sur Radio Classique. Il est 7h50 exactement. Melania Trump a pris la parole hier soir à la Convention républicaine de Charlotte. On va en reparler dans une demi-heure avec Laurence Haye, mais indirectement avec Renaud Blanc, l'homme du journal imprévisible, juste après ceci.